Donc, Madame Guilbeault, à vous la parole.
Merci beaucoup, Madame Paquette. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, à mon tour de commencer, évidemment, c'est ma première présence avec vous en 2021. Donc, à mon tour de souhaiter à tout le monde une très belle année 2021, une année qu'on se souhaite évidemment différente de 2020, plus lumineuse et très empreinte d'espoir. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis là, vous vous en doutez, pour faire le point sur l'annonce qui a été faite par le premier ministre hier soir, l'annonce du couvre-feu, de l'instauration d'un couvre-feu au Québec à partir de ce samedi. Une mesure qui, je dirais, pour toutes les personnes qui suivent déjà assidûment les règles de la santé publique, ne changera à toute fin pratique pas grand-chose dans leur vie, dans le sens où on est déjà contraint par un ensemble de mesures. On ajoute celle-là, mais ça changera peut-être pas tant que ça la vie de ceux qui respectent déjà les règles. Par contre, pour la minorité qui continue de vouloir se rassembler, entre autres dans des rassemblements, on le sait, interdits, des rassemblements privés, notamment dans des maisons privées, donc ça va devenir beaucoup plus difficile à partir de samedi de pouvoir se rassembler malgré cette interdiction. Donc, je le reprécise, le couvre-feu va entrer en vigueur ce samedi 9 janvier, en vigueur pendant 4 semaines jusqu'au 8 février. Et je parle du couvre-feu, mais il y a aussi un ensemble d'autres mesures là, dont le premier ministre a fait état hier, qui touchent entre autres les commerces et qui touchent d'autres secteurs de la société. Évidemment, cette instauration d'un couvre-feu vient avec une surveillance et un travail policier qui auront cette responsabilité de faire respecter le couvre-feu à partir de samedi. Nos policiers, ils ont l'habitude de travailler en usant de discernement, en usant de jugement, et ils le feront encore une fois dans l'application de ces nouvelles règles et de ces nouveaux pouvoirs qui leur seront dévolus à partir de samedi. Donc, nos policiers qui d'ailleurs font un travail remarquable et soutenu depuis le début de la pandémie. Je veux prendre le temps, comme le fait le premier ministre hier, de les remercier très sincèrement pour la qualité du travail qu'ils font depuis 10 mois. Ils sont eux aussi au front depuis le début de la pandémie et sont vraiment des alliés essentiels dans la lutte qu'on mène tous contre le virus de la COVID-19. Donc, un grand, grand, grand merci à nos policiers et à nos policières un peu partout au Québec. Le premier devoir, et je dirais même le premier intérêt d'un policier ou d'une policière au Québec, c'est de protéger la population, de protéger nos citoyens. C'est ce qui les anime dans leur travail régulier, c'est ce qui les a animés aussi depuis toutes ces nouvelles règles et tout ce contexte inédit de la pandémie, et c'est ce qui continuera de les animer dans l'application des règles liées au couvre-feu à partir de samedi. Ceci étant dit, au-delà de la sensibilisation, ils auront de fait, à partir de samedi, le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, des contraventions à ceux qui ne respecteront pas le couvre-feu à partir de samedi. Ce couvre-feu, il sera en vigueur, nous l'avons dit, de 20h à 5h du matin le jour suivant. Donc, une personne qui va se trouver ou circuler en dehors de sa résidence entre 20h et 5h pourra se voir remettre une contravention. Les contraventions qui sont en rapport avec la loi sur la santé publique varient toujours de 1 000 à 6 000 $ selon le cas. Et on est en train de travailler, moi je suis en train de travailler avec le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour nous assurer qu'à partir de samedi, nos policiers pourront disposer de constats d'infraction. Donc c'est cette même technicalité qu'on avait déjà abordée lors de précédentes annonces pour de précédentes nouvelles règles. Donc, c'est finalement ce qui se rapproche le plus d'une contravention en bonne et due forme ou d'un ticket, si vous me passez l'expression. Alors, un constat d'infraction qu'on peut se voir remettre immédiatement d'un montant de 1 000 si on ne respecte pas le couvre-feu à partir de samedi 20h, 9 janvier. Il y aura une rencontre aussi, puis je tiens à le dire parce que je veux bien démontrer toute la collaboration qui peut exister entre les partenaires qui mettent en application toutes ces lois et ces règles qu'on instaure. Donc, il y aura une rencontre demain entre nous, au ministère de la Sécurité publique, les corps policiers, le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour justement clarifier l'ensemble de ces nouvelles règles, clarifier les pouvoirs qui sont attribués aux policiers à partir de samedi et s'assurer que le tout sera pleinement opérationnel pour pouvoir s'appliquer dès 20h samedi. Évidemment, le gros bon sens commande qu'il y ait des exceptions à l'application de ce couvre-feu. C'est un couvre-feu qui est en vigueur pour l'ensemble de la province, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, des gens qui doivent continuer de pouvoir travailler, des secteurs qui doivent continuer de fonctionner et des situations qui vont continuer d'arriver. Donc, il y aura une série d'exceptions qui vont être prévues à l'application de ce couvre-feu. Il y a des exemples de ces exceptions qui sont disponibles sur le site Internet québec.ca, mais entre autres exceptions et qui relèvent du gros bon sens, il y a évidemment tous ceux qui doivent continuer de travailler, qui font un travail essentiel. On pense aux travailleurs de la santé, on pense à des gens qui doivent faire du transport de marchandises, du transport de biens au Québec. Donc, ces gens-là seront autorisés, bien sûr, à se déplacer entre 20h et 5h pour aller travailler. Il y a aussi des situations qui peuvent être nécessaires, par exemple, pour aller chercher un médicament à la pharmacie pour soi ou pour quelqu'un avec qui on habite. Il y a des situations où on doit prêter assistance à quelqu'un, où on doit se rendre au chevet d'une personne en fin de vie. Donc, il y a un ensemble comme ça de circonstances qui font qu'il y a des occasions où les gens auront le droit de circuler, mais ça va prendre une bonne raison pour pouvoir circuler. On pense aussi à des motifs d'urgence divers, et je veux faire une parenthèse là-dessus, que je trouve très, très importante, et je parle au nom de ma collègue ministre de la Condition féminine aussi, le couvre-feu qui entre en vigueur samedi ne doit surtout pas vous empêcher de quitter un milieu de vie qui est violent et qui compromet votre sécurité ou celle de vos enfants. Donc, je veux passer le message, là. Évidemment, ce couvre-feu-là ne doit en aucun cas freiner votre volonté de quitter un milieu de vie qui est inapproprié. Vous pouvez faire appel aux ressources d'hébergement pour vous accompagner, à SOS Violence Conjugale aussi. Toutes ces personnes-là continuent d'être en fonction et d'être disponibles pour vous soutenir. Donc, en aucun cas, nous ne voulons que ce couvre-feu ne vous empêche de quitter un milieu de vie qui est malsain pour vous ou pour vos enfants. Alors, je le disais, il y a une liste d'exemples de ces exceptions qui est disponible sur le site québec.ca. Et un autre élément qui est important de mentionner, c'est que pour une personne qui va se trouver en dehors de son domicile entre 20h et 5h, ce sera la responsabilité de la personne de faire la démonstration à un policier qui éventuellement l'intercepterait, de faire la démonstration qu'elle a une bonne raison d'être en dehors de son domicile entre 20h et 5h. Donc, c'est la responsabilité de la personne qui circule. Et pour faciliter cette démonstration-là, bien, je suggère à toutes les personnes qui sont concernées d'avoir en leur possession une preuve de la légitimité du fait qu'elles sont en train de circuler. Par exemple, les travailleurs pourront avoir un document qui est émis par leur employeur et qui atteste effectivement du fait qu'ils sont en train de travailler ou de fournir un service essentiel. Il y a déjà plusieurs entreprises, d'ailleurs, qui avaient émis ce genre de preuves-là lors du premier confinement, qui ont donc leur propre modèle. Sinon, il y a un modèle qui est disponible aussi sur le site québec.ca que les employeurs peuvent utiliser pour fournir à leurs employés. Si vous devez vous rendre à l'hôpital ou à la pharmacie acheter un médicament, l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous pouvez garder votre reçu de caisse. Donc, il y a comme ça des façons relativement simples là, de pouvoir démontrer qu'on a une bonne raison d'être à l'extérieur. Il y aura une exception aussi, et là, peut-être que plusieurs se sont posé la question, pour les chiens, ceux qui ont des animaux de compagnie, des chiens à la maison. Donc, ce sera possible de sortir après 20 heures dans un rayon d'un kilomètre autour de sa résidence pour les besoins du chien. Évidemment, il faut être accompagné de son chien pour pouvoir se prévaloir de cette exception-là. C'est ça. Alors, dans tous les cas, on essaie de se prémunir d'une preuve, la raison pour laquelle on circule. Et je le rappelle, là, puis ce sera en filigrane à mesure qu'on fera des interventions sur ce sujet-là, les policiers sont habitués de faire preuve de jugement et de discernement dans l'application des lois et des règlements. Alors, l'idée, c'est pas de coincer à tout prix des gens ou d'être plus suspicieux qu'il ne le faut. Les gens qui ont des bonnes raisons de circuler, on va le comprendre, les policiers vont le comprendre, puis il n'y aura pas de problème. Mais cette série d'exceptions-là, c'est important ça aussi de le comprendre, c'est pas une liste d'excuses ou une liste de prétextes qu'il faut apprendre à exploiter pour se trouver une raison de circuler après 20 heures. C'est vraiment une liste d'exceptions pour encadrer les urgences, donc les situations qui n'ont pas le choix de survenir entre 20h et 5h. Mais sinon, en fait, le message, c'est on reste chez soi. On reste chez soi après 20h jusqu'à 5h le lendemain. On ne va plus chez nos amis. On ne fait plus de parties. On ne fait plus de rassemblements qui étaient déjà interdits de toute façon. Mais cette nouvelle mesure-là qui s'ajoute à tout le reste, c'est vraiment pour s'attaquer à ce fléau qui a perduré. Quand je dis fléau, c'est une minorité de gens, encore une fois, là. Mais quand même, ça a perduré, là, cette occurrence de rassemblement privé, et ça nuit à notre situation épidémiologique. On a trop de cas, notre réseau de la santé est presque proche du point de rupture dans certains coins de la province. Donc, on évite de circuler, et si on le fait, on essaie d'avoir une preuve avec nous pour faciliter le travail des policiers et pour se faciliter la vie à soi aussi. Alors, je terminerai là-dessus en répétant que je veux remercier vraiment beaucoup les Québécois parce que on prend pas de plaisir à faire ces annonces-là. Le premier ministre hier, moi aujourd'hui, tout le monde est tanné de la pandémie, tout le monde est tanné de se faire ajouter des nouvelles règles ou de recycler des anciennes règles. On se reconfine, on l'a déjà vécu au printemps, on le vit encore aujourd'hui. Mais la grosse différence avec la première vague puis avec le début de la pandémie, c'est que là, l'espoir très concret, la lumière au bout du tunnel, on la voit, elle est à portée de main. On achève, la pandémie achève, le vaccin est arrivé, on est en train de vacciner, on a près de 50 000 vaccins déjà d'administrer au Québec. Vous connaissez la liste de priorités, on commence par les personnes vulnérables, personnel du réseau de la santé. Une fois que ce sera fait, on aura une belle étape de franchie dans l'immunité collective, ou disons la protection collective qu'on recherche contre le virus. Donc, la bataille n'est surtout pas gagnée, faut pas penser que ça va finir demain matin, mais au moins cet espoir concret, on l'a avec le vaccin qui s'en vient. Donc, pour chaque nouvelle règle un peu agaçante qu'on doit ajouter pour l'instant, le temps que cette saga de la pandémie se termine, on a au moins cet espoir auquel on peut se raccrocher avec le vaccin. Donc, je vais terminer en vous remerciant à nouveau énormément pour votre collaboration. On sait que vous êtes fatigués, on sait que vous êtes tannés, mais on vous remercie. C'est grâce à vous si on aura traversé cette pandémie quand ça va être un jour derrière nous. Et je veux remercier aussi encore une fois nos policiers, notre personnel du réseau de la santé, tous nos citoyens qui nous permettent de traverser cette pandémie tous ensemble. Un gros merci tout le monde.
Merci beaucoup, Mme Guilbeault.
Vous avez entendu Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique. Christian nous écrit, on bascule dans un état policier. Non, parce que la loi sur l'urgence sanitaire nous permet beaucoup, beaucoup de choses, donne une grande latitude au gouvernement du Québec. Merci aux auditeurs qui ont été nombreux à m'écrire. Il n'y a pas eu de couvre-feu lors de la crise d'octobre en 70. J'ai vraiment demeuré sous cette impression. Mais et la presse et Radio-Canada ont porté les explications entourant les événements de 70. Denis Couture, journaliste ici à Cogeco, il y a énormément de questions de la part des auditeurs. Bon, je vous donne un exemple, là. Un auditeur qui nous écrit « Ma femme est dans le réseau de la santé, c'est moi qui vais la chercher à travail la nuit. » Mais vous n'aurez pas de problème à aller chercher votre conjointe, là.
Normalement pas. Mais en tout cas, il va falloir que les gens se munissent de documents qui vont être fournis par l'employeur. C'est ce qu'on a appris lors de cette conférence de presse de Mme Guilbeault.
Mais en même temps, elle a dit, la ministre Denis, ben écoutez, les policiers vont faire preuve, sont capables de faire preuve de bon jugement, là, oui. On s'entend.
Oui, mais ce sera aux citoyens de faire la démonstration de la raison du déplacement, de la raison pour laquelle la personne est à l'extérieur. Et elle a dit, il va y avoir une preuve que vous avez raison d'être à l'extérieur et les employeurs vous fourniront ce document-là parce que les travailleurs, ce seront probablement ceux qui seront les plus nombreux à l'extérieur durant la nuit. Ce seront les gens qui font partie de cette exception et elle en a nommé quelques-unes des exceptions, les travailleurs essentiels, donc travailleurs de la santé, bien évidemment, le transport de biens, de marchandises, ces gens-là travaillent de nuit beaucoup, quelqu'un qui veut prêter assistance à quelqu'un d'autre, il y a des situations d'urgence qui ne sont pas liées à la COVID et qui vont toujours exister malheureusement, les gens qui doivent se munir de médicaments de façon urgente, rapidement, durant les heures de la nuit, ça arrive ça aussi. Et là, ben, si vous avez une preuve de l'achat de votre document,
de votre
médicament, ben là, ouais, normalement, les policiers vont comprendre.
Les épiceries vont fermer à 19h30, mais les pharmacies, elles, qui vont vendre les médicaments, vont pouvoir demeurer ouvertes selon les heures régulières d'ouverture.
Oui.
Les auditeurs nous écrivent, Steve nous écrit, je dois déneiger ma cour. Oui, dans votre cour, il n'y a pas de problème. Allez promener tout dans un rayon d'un kilomètre non plus. Là. Patiner sur votre patinoire derrière votre résidence, il n'y en a pas de problème. Là. Mm-hmm. On veut éviter que les gens circulent sur le réseau routier. C'est la période des questions, Larry, on y va immédiatement.
Dans les quarts de nuit, puisque le couvre-feu est de 20h à 5h. Et est-ce qu'il y a des secteurs ou des villes qui vont être particulièrement ciblés pour la patrouille policière?
Oui, merci. En fait, on est déjà, nous, en discussion au ministère de la Sécurité publique. On est en discussion permanente avec les corps de police, surtout en temps de pandémie. Là, il y a beaucoup de choses qui changent continuellement. Donc, on est vraiment en discussion constante à mesure pour ajuster l'application des diverses lois, des diverses règles et règlements. Donc, ça se fait déjà. Ce que j'ai dit, c'est que demain, il y aura vraiment cette rencontre avec les instances judiciaires, le DPCP, la justice, parce que quand on parle de pouvoir donner des amendes, il y a toujours le ministère de la Justice qui a un rôle important à jouer là-dedans. Et donc, on veut faire le point sur cette question précise de l'application du couvre-feu à partir de samedi et on fera ce point-là tous ensemble demain, vendredi. Sinon, pour ce qui est des patrouilles, la présence policière, la visibilité, la façon d'intervenir et tout ça, ce sera la discrétion des corps de police. Nous, ce dont on s'assure, c'est que les corps de police soient bien outillés. Donc, la demande qui revient tout le temps, puis j'en parle souvent à chaque fois qu'on met des nouvelles règles, moi, ma volonté, c'est qu'on s'assure de donner des pouvoirs et des outils de travail clairs et opérationnel à nos policiers. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fera dans le décret là, qui sera éventuellement accepté pour mettre en application ce couvre-feu. Et à partir de là, eux ont la responsabilité de les appliquer. Donc, la façon dont ils vont procéder, comment ils vont organiser les corps de travail, la présence, etc., ça relève de la discrétion et de la gestion de chacun des directeurs de police. Mais on nous assure de leur collaboration pleine et entière et tout devrait très bien se passer.
Sur les raisons qui peuvent faire en sorte qu'on soit dehors pendant le couvre-feu, vous dites que ça va prendre une bonne raison là, pour s'y trouver et pour convaincre les policiers. Est-ce que vous demandez là, clairement à ce que chaque personne qui se trouve à l'extérieur ait un billet, par exemple, de son employeur pour le justifier ou encore si c'est une personne proche aidante, un billet qui dit qu'elle est une personne proche aidante?
Oui, bien, ce que j'ai dit, c'est que ça facilite le travail des policiers et notre propre démonstration d'avoir quelque chose qui nous permet de prouver qu'on a une bonne raison de circuler. Donc, effectivement, là, l'attestation par l'employeur, je dirais que c'est vraiment la meilleure façon de prouver qu'on est en train d'aller travailler. Bien sûr que si un infirmier est en train de se déplacer pour aller travailler puis il montre sa carte d'hôpital, ça tombe sous le sens que le policier va dire c'est parfait, il n'y a pas de problème. Alors, puis pour d'autres types de circonstances, des motifs d'urgence familiale, aller garder par exemple les amis, on passait en revue les divers exemples hier, par exemple, j'ai une amie qui s'en va accoucher, ben je m'en vais garder ses enfants chez elle pendant qu'elle va accoucher. Donc c'est des exemples comme ça de réalités qui peuvent survenir. Puis le couvre-feu, on veut pas empêcher les gens d'aller comme ça secourir quelqu'un d'autre. Donc, il s'agit d'expliquer le motif et le policier va user de son discernement et de son bon jugement dans l'appréciation de ses motifs.
Merci beaucoup. Donc, on va passer à François Carabin du journal Métro.
Bonjour, Mme Guilbeault. C'est une question qui a été abordée hier au point de presse, mais j'aimerais revenir là-dessus. Vous avez parlé de plusieurs exceptions qui pouvaient s'offrir aux personnes qui étaient retrouvées à l'extérieur de leur domicile après 20 heures. Pour les personnes qui n'ont pas de domicile, donc les personnes en situation d'itinérance, est-ce que c'est une exception valable? Et qu'est-ce que vous allez demander aux policiers, en gros, là, dans leur relation avec les personnes en situation d'itinérance?
Oui, ce qu'on a dit hier, puis qui est très vrai, c'est qu'on va d'abord et avant tout travailler avec les municipalités, avec le ministère de la Santé, pour faire en sorte de trouver un refuge pour ces personnes-là. Le premier objectif, c'est d'aider ces personnes-là, de les accompagner pour se trouver une place dans un refuge. Il y a des places disponibles actuellement, et donc ce qu'on veut faire, c'est de les accompagner vers un refuge. Maintenant, les policiers, les corps de police, certains plus particulièrement, qui sont quotidiennement en relation avec une clientèle itinérante sont habitués de travailler avec cette clientèle-là. Donc, cet accompagnement-là vers des ressources ou cette façon-là de travailler avec cette clientèle, ils la connaissent déjà très bien. Et nous, ce qu'on a dit, c'est on veut accompagner, on veut aider la clientèle itinérante et pas les inonder de contraventions. Donc, la tolérance, effectivement, sera de mise.
Bien. Alors, si tu le veux bien, Denis, on va clore sur ce bloc parce qu'on a Marcel Savard, ancien directeur général de la Sûreté du Québec, qui est avec nous, et de même que Luc Lavoie, notre ami Luc. En conclusion, Denis?
Bien, on sait que le travail du ministère de la Sécurité publique actuellement, à l'heure où on se parle, se fait avec le ministère de la Justice, avec la Direction des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, pour que l'on puisse mettre tout ça en place là, à partir de samedi 20h. Il y aura rencontre avec les divers corps policiers demain entre le ministère de la Sécurité publique, le DCP et les corps policiers. Bien. Alors, ce qu'on veut, c'est être prêt pour 20h, donc samedi. Bien. Et on est revenu sur les patrouilles. Là, ça sera à la discrétion des corps policiers, selon leur bon jugement, de faire ce qu'ils ont à faire.
Voilà. Il y a un auditeur qui écrit, moi, j'ai une usine, puis j'ai plusieurs corps de travail. La nuit, mes travailleurs sont obligés de se déplacer, est-ce qu'ils seront pénalisés? La réponse, c'est non. Mais donnez-leur l'outil, la preuve qu'ils travaillent bien à l'usine. Vous comprenez? Alors, il y a un auditeur aussi qui dit, moi, je travaille dans une pharmacie, je livre, je suis allé chercher ma preuve attestant que je devrais peut-être me promener parfois après le couvre-feu. On va aller joindre, merci beaucoup Denis Couture, plaisir. Journaliste, on va aller joindre Marcel Savard, ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Bonjour à vous, M. Savard.
Bonjour, Mme Normandeau.
Bon, on s'est parlé, nous, cette semaine déjà. Dites-moi votre réaction. Là. Ça semble faisable, la mise en œuvre de ce couvre-feu?
Oui, je dirais même que lors de notre dernière conversation, on a justement discuté de cas de figure et qui ont été repris dans la conférence de presse de Mme Guilbeault. Elle parlait justement de personnes victimes de violences conjugales. Donc, on fait ici référence vraiment à la notion de jugement, discernement. Vous savez, ça m'interpelle beaucoup. Et aussi que les policiers vont être prêts à mettre tout ça en branle dès samedi. Et on parlait, est-ce qu'on va avoir le temps de faire des documents? Moi, ce qui m'interpelle dans la notion de document attestant la légitimité du déplacement, ça me fait drôle de dire ça, évidemment, en ondes, mais vous savez, les gens qui sont carrément des gens qui ne respecteront pas cet ordre de pas de confinement, mais de couvre-feu, ils vont chercher tous les moyens pour contourner ça. Et on va voir même des gens qui vont se présenter avec des faux, avec fabrication, usage de faux. On va voir, je suis convaincu qu'on va tout voir ça, là. Des gens qui vont faire des faux, usage de faux, qui vont rédiger, et ce que je vous donne là, ce sont tous des articles du Code criminel, qui vont rédiger une rédaction non autorisée d'un document. Et tout ça, là, moi, le message que je lance, là, c'est un dossier criminel, là. Quelqu'un qui utiliserait, qui ferait un faux, c'est criminel. C'est pas, là, juste une infraction, une étiquette, de dire que vous allez avoir 1 000$ d'amende, puis après ça, vous le contesterez encore. Non, non. Si vous allez là, dans ce chemin-là, là, on est vraiment en train de parler d'un acte criminel.
OK. C'est bien, oui. M. Savard, de spécifier, parce qu'il y a un auditeur qui vient justement de nous écrire ça. Il y en a qui vont effectivement falsifier des documents pour dire, j'ai besoin d'être sur la route après 20 heures.
Ah, c'est un risque qu'ils vont prendre. Vous savez, les gens qui sont vraiment là les réfractaires à tout ça, qui veulent absolument contrevenir à la règle, au couvre-feu, il y en a une partie encore de ce petit nombre qui sont réfractaires à tout ça, qui vont aller jusque-là.
Okay.
Et d'aller jusque-là, c'est de prendre le risque pour dire que je suis sur la route, de se retrouver avec un dossier criminel. Parce que s'il y a, à ce moment-là, la découverte qu'on a fait un faux usage de faux ou une rédaction non autorisée, je vous le dis, là, ils prennent des grands risques pour finalement être sur la route, pour aller prendre une bière avec un copain. Là.
Monsieur Savard, je veux juste vous dire en terminant, Mick, un auditeur qui nous écrit, je vois déjà sur Facebook des personnes qui vendent des faux documents pour circuler après le couvre-feu de 50 à 100 $.
Et voilà. C'est pas d'être souvent d'être paranoïaque ou d'être de voir des failles dans le système. C'est juste d'être réaliste. C'est ça à quoi on va faire face. Maintenant, l'application du couvre-feu lui-même par les policiers, c'est un outil facilitant pour essayer de contrôler justement la propagation de la pandémie du virus. Donc, les policiers vont faire leur job et c'est facile de le faire.
Merci.
Parce que si tu es là, le fardeau t'appartient comme citoyen à dire « voici pourquoi ». Je suis actuellement sur la route.
Très intéressant, Marcel Savard. On le rappelle, vous êtes ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec. Bonne fin de journée, au plaisir.
Merci, bonne journée.
Merci, bye-bye. Luc Lavoie, salut.
Salut.
Luc, écoute, les auditeurs, là, il y a toutes sortes de cas de figure, évidemment, tu comprendras bien, qui émergent. Par exemple, je suis un travailleur autonome, je fais quoi? Moi, je me signe un papier moi-même. Tu sais, il y a toutes sortes de cas de figure qui se présentent actuellement. Mais la chose qu'on peut dire, c'est que le couvre-feu, en fait, a d'abord avant tout un effet dissuasif. Si tu sais qu'il y a un couvre-feu à 20 heures, tu ne feras pas exprès pour aller à l'épicerie à 8h15. Alors, pas qu'elle va être fermée, mais tu comprends. T'sais. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as écouté Geneviève Guilbeault comme nous, ta réaction?
Oui, oui, oui. Bon, ben moi, ça me paraît tout à fait correct ce qu'elle disait. Je crois que nos policiers vont faire preuve de discernement. Et surtout, je pense que c'est d'entrée de jeu, Nathalie, que t'as dit, que t'avais un auditeur qui disait « on est dans un état policier ». Hey, s'il vous plaît, là, on n'est pas dans un état policier, c'est pas du tout ça un état policier. Et il faut donner un dernier coup tous ensemble, OK? Parce qu'après ça, là, c'est le vaccin qui va prendre la relève. Mais d'ici là, sauvons des vies, sauvons les nôtres, soyons solidaires et respectons les règles. Je veux dire, arrêtons de trouver « Ah oui, et là, policier, peut-être que moi, faudrait que je m'auto-écrive une lettre. Garde, il va avoir des solutions, il va s'en dessiner des solutions. » Je pense pas qu'il y ait question d'envoyer la Gestapo là, avec des jackboots pour arrêter les gens dans la rue. Là, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'on veut que les gens arrêtent de circuler puis avoir des contacts. Je suis aussi excédé que tous nos auditeurs par rapport à ça, ce qui m'amène d'ailleurs à dire le premier ministre et le gouvernement sait très bien que c'est sa dernière carte. Là. Quand on va sortir de cette période de couvre-feu et de restrictions, je pense pas qu'il serait capable d'arriver puis dire j'en rajoute encore un peu. On est vraiment rendu au point où les gens commencent à mentalement ne plus être capables de l'entendre.
Ah, tout à fait. En fait, c'est un pari risqué que prend le gouvernement avec cette histoire de couvre-feu.
Et ça explique en bonne partie pourquoi il a choisi d'aller dans cette direction-là. Il sait que c'est sa dernière carte. Il faut qu'il joue ses cartes.
Exactement.
C'est maintenant. Puis il n'est pas question d'état policier. On veut sauver des vies. Êtes-vous d'accord avec ça, sauver des vies? Êtes-vous d'accord pour que votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père soient en sécurité dans notre société? Si vous êtes d'accord avec ça, bien, mon Dieu, Seigneur, faisons ce qu'il faut faire.
Exactement.
C'est pas bien compliqué.
T'as raison, c'est pas bien compliqué. 98-98-5, beaucoup de gens nous écrivent les camionneurs. Moi, Luc, j'ai vraiment une pensée pour eux parce qu'ils étaient des héros au mois de mars, puis là, on les a oubliés, mais vraiment drôlement oubliés. Tu sais qu'ils ont peu d'accès à les installations sanitaires font vraiment défaut pour eux. Alors, les camionneurs, évidemment, vous n'aurez pas de problème à circuler après 20 heures, sauf qu'il faut vraiment, vraiment leur donner ce dont ils ont besoin pour...
Pour faire leur travail.
Couvrir leurs besoins de base, Luc. Là. Moi, je vous salue et vraiment, là, je sais pas, c'est grâce à eux si on mange à tous les jours, puis si on peut vivre comme on vit. Il y a
tout
également plusieurs personnes qui nous écrivent qui sont en couple, qui ne vivent pas à la même adresse.
Aha!
Alors là, à ce moment-là...
Ils font chambre à part. Est-ce qu'ils anguillent sous roche?
Eh oui, effectivement, ils font chambre à part. Vous pouvez aller visiter votre chum ou votre blonde avant 20 heures, mais après 20 heures, tu as une décision à prendre. Tu couches à la maison ou tu couches sur le divan, mais tu veux dire, tu peux pas t'amuser à circuler d'un appartement à l'autre après 20 heures.
Il me semble qu'il devrait y avoir une autre option.
Non,
pas
mais...
nécessairement le divan.
Non, mais si tu te chicanes, Luc, mettons qu'on en serait dans cette situation-là, toi et moi. Là.
Puis, une scène de ménage entre toi et moi.
Une scène de ménage, t'es mieux de pas la faire à 8h15 ou... écoute, t'organises. Puis si après 8 heures, t'as un ménage, il y en a un de nous deux qui couche sur le divan.
Puis si t'exagères, tu vas finir dans le lit du chien. C'est ça, la fin?
Oui, en parlant des toutous, là, vous avez compris, il y a un rayon d'un kilomètre.
Ça, c'en est une que j'ai entendu beaucoup depuis hier, parce que j'habite dans un édifice à condo où il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, puis c'était la grosse affaire.
Ouais.
Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça a l'air de rien, mais ça va faire plaisir à bien des gens. Ils peuvent aller faire marcher leur toutou.
Exactement, tout à fait. Même chose, si vous pouvez sortir sur votre balcon, là, sur, dans votre cour arrière, ben oui, là. Il n'y en a pas de problème, là. Je veux dire, c'est pas...
Ils veulent pas que vous circuliez, c'est
exactement,
tout.
Exactement, c'est ça. On veut pas, on veut le moins de monde possible dans les rues, c'est aussi clair que ça. Alors,
et
voilà.
Le moins de contact possible entre les individus.
Le masque, la distanciation, on se visite pas, tout
au
ça.
Au Québec,
là,
on dit
ça,
pas là. Un masque, on dit un couvre-visage.
Ah, là, Luc, écoute, parle-moi pas là-dessus, comme on dit à mon français. C'est l'heure de la pause, et après la pause, Luc, ben, je pense que le sujet va t'intéresser. Non, il va assurément t'intéresser. Alec Castonguay écrit un papier.
Ben oui.
Oui, les dernières 48 heures décisives qui ont conduit le gouvernement à adopter cette mesure sur le couvre-feu. On en jase avec lui dans quelques instants.